Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, Boris Chassin qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure. Au sommaire de cette émission, une école secondaire d'Ottawa lance son académie culinaire. Les élèves mettent la main à la pâte.
Pour moi, la cuisine, c'est quelque chose où je me trouve à l'aise à faire. Alors, quand tu fais quelque chose qui est facile pour toi, je trouve que ça te donne plus intérêt à l'apprendre et à vouloir continuer à le faire dans le futur.
Brasser une bière de rivière pour sensibiliser la population aux enjeux de l'eau, une micro-brasserie du Nouveau-Brunswick se retrousse les manches.
Je la trouve exceptionnelle parce qu'elle est faite avec l'eau de la ville de Saint-Quentin. Donc, notre eau potable, ça veut dire qu'on peut faire plus que la boire. On peut la transformer.
15 000 personnes franchissent en quelques mois les portes de la galerie Beaverbrook de Fredericton. L'architecture des installations et sa programmation ravissent les publics.
Après 3 mois, c'est extrêmement populaire. Les gens sont vraiment bouleversés par le pavillon ici à l'avant, le pavillon Harrison McCain. À l'ouverture, il y avait 5 000 personnes ici durant 7 jours. C'était merveilleux.
Et l'entrepreneurship au féminin, qu'est-ce que ça veut dire? La Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse lance une série de 10 capsules sur ce thème.
C'est vraiment un outil de démarrage d'entreprise. Le but, c'est de sensibiliser à la prospérité économique des femmes et puis aussi qu'elles aient les ressources pour se lancer en entrepreneuriat.
Sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Merci d'être avec nous. Posons-nous d'abord à Ottawa pour lancer cette émission. Ottawa, où l'École secondaire catholique de l'innovation vient de lancer son Académie culinaire. Le projet étant le fruit d'une association entre le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est et du restaurant 1 Elgin au Centre national des arts. La programmation de cette nouvelle Académie des arts culinaires sera lancée dès la prochaine rentrée scolaire en 2023, donc en septembre. Elle s'ouvre pour l'heure aux élèves de la 9e et de la 10e année secondaire. Les jeunes de la 11e et 12e devront résister aux effluves des cuisines jusqu'en 2024-25. L'École de l'innovation sera la seule dans la région d'Ottawa à offrir un programme de cuisine avancé. À la fin de leur cursus, les élèves obtiendront un diplôme, pourront faire des stages, poursuivre leurs études ou intégrer directement le marché du travail. Le reportage de Marie Hillès à Ottawa, en Ontario.
La nouvelle Académie des arts culinaires est née d'un partenariat entre le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est et le restaurant 1 Elgin du Centre national des arts. Le programme sera lancé dès la rentrée scolaire 2023. Les élèves passionnés pourront y s'inscrire. Nia Djoga, surintendant au CECCE.
Ça va offrir à nos élèves l'exposition nécessaire au métier des arts culinaires. Quand je parle des métiers des arts culinaires, on parle de la cuisine, on parle des services de protocole, on parle de la gestion des entreprises, on parle également de la découverte des mets et des cuisines du monde entier. Le programme est important également parce que nous observons depuis un certain temps une très forte pénurie de main-d'œuvre dans l'industrie de la restauration. Et dans nos écoles également, nous avons observé un grand intérêt pour les arts culinaires. Parce que comme vous savez, il y a beaucoup d'émissions de télévision, il y a beaucoup de magazines qui font la promotion des cuisines. Donc nos élèves sont intéressés par ça. Donc on espère que certains de nos élèves qui seront exposés dans cette Académie d'art culinaire pourront par la suite se diriger vers ce métier qui est noble.
Dans ce programme, les élèves apprendront plusieurs aspects de la cuisine, comme la boulangerie, la pâtisserie, la cuisine moléculaire, le service dans un restaurant, mais aussi la comptabilité. L'École secondaire catholique de l'innovation offre déjà des cours de cuisine, mais qui ne durent qu'un semestre. Julia Adjoblé est l'une des élèves qui a suivi les cours.
Je suis africaine et j'ai aussi ma mère qui cuisine beaucoup, alors j'essaye beaucoup d'apprendre de elle, vu qu'elle est aussi experte dans ça. Alors la cuisine africaine, c'est quelque chose que je voudrais vraiment apprendre dans le futur et aussi montrer aux autres personnes au Canada et partout en Amérique, parce que c'est pas quelque chose que tu vas voir à chaque jour, comparé à comme la nourriture américaine, par exemple. Moi, ce qui me passionne dans la cuisine, c'est que c'est une forme d'art où tu peux vraiment démontrer comme tes qualités. Pour moi, la cuisine, c'est quelque chose où je me trouve à l'aise à faire. Alors, quand tu fais quelque chose qui est facile pour toi, je trouve que ça te donne plus intérêt à l'apprendre et à vouloir continuer à le faire dans le futur.
Claude Côté est le chef enseignant à l'École secondaire de l'innovation. Dans son programme Maître Chef, il montre ce que c'est l'art culinaire du début à la fin. Il parle du programme de cette nouvelle académie.
Ah, le programme est extraordinaire. En principe, je travaille un petit peu dans l'ombre depuis 4 ans sur ce programme-là pour être capable de donner mon feedback du côté culinaire, de qu'est-ce qu'on a besoin dans une cuisine, qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre aux élèves, qu'est-ce qu'on a besoin de leur montrer, et surtout le partenariat avec des grandes places comme le CNA. Mon Dieu, d'autres hôtels, on est en face de l'hôtel Westin, le Shaw Center, c'est des places qui vont accueillir nos élèves pour être capable de leur montrer un stage et montrer comment ça se produit dans l'industrie et possiblement les engager par la suite.
Qu'est-ce qui vous passionne dans la cuisine?
Tout. Tout. C'est d'être capable de dire qu'on prend un produit brut et de l'emmener à une création dans une assiette et que les gens, une fois qu'ils ont mangé ce mets-là, ils font tout « Oh my God, c'était tellement bon! » C'est ça qui la paye d'un chef.
L'Académie des arts culinaires sera offerte aux élèves de 9e et 10e année dès la prochaine rentrée scolaire et aux jeunes de 11e et 12e année en 2024-2025. C'était un reportage de Marie Illès dans le cadre du programme IJL.
Bonjour, ici Adèle à Halifax en Nouvelle-Écosse. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Visiteurs ont franchi les portes de la galerie Beaverbrook de Fredericton depuis sa réouverture en septembre dernier. La galerie qui vient, après une période de 2 ans, d'inaugurer son nouvel espace, le pavillon Harrison McCain, est de toute évidence, pour le plus grand plaisir des amateurs d'art de la ville, de la province et d'ailleurs même, les expositions s'y sont succédées, les visiteurs répondent présents. Sébastien Caron est à Fredericton au Nouveau-Brunswick. Il est en compagnie de John Leroux, directeur des collections et des expositions de la Beaverbrook.
Après 3 mois, c'est extrêmement populaire. Les gens sont vraiment bouleversés par le nouveau le pavillon ici à l'avant, le pavillon Harrison McCain. Même aujourd'hui, on a accommodé une grande groupe pour un funérailles ici. Comme les gens, il y avait des mariages, des fêtes, des dîners, des choses. Alors, c'est vraiment une bonne salle publique pour les gens d'utiliser comme une salle, un living room pour le Nouveau-Brunswick. Mais aussi, on montre des grandes œuvres d'art, la sculpture, les choses d'une valeur internationale, importance, mais aussi des objets des artistes importants du Nouveau-Brunswick. Alors, ça nous donne vraiment une variété de choses pour montrer et de partager au public. À l'ouverture, il y avait 5000 personnes ici durant 7 jours. C'était merveilleux. Après, comme des... disons probablement comme 15 000 ou peut-être plus. Il y a beaucoup, beaucoup de gens. C'est extrêmement populaire. Et une chose que je remarque très bien qui est si importante, une énorme montant, une amélioration des gens, des jeunes qui viennent, des teenagers, des gens dans leurs 20, les vingtaines, les trentaines. Alors, ils sont vraiment excités du contenu, les expositions qu'on a. Alors, c'est très important de pas seulement avoir des gens vieux, mais ils sont importants aussi comme membres, mais les jeunes, ça devient très... ça connecte avec leur sensibilité.
Qu'est-ce qu'il y a à voir en ce moment dans les murs de Beaverbrook?
Oh, on a des bonnes expositions. On vient d'ouvrir une grande rétrospective de 50 ans d'un artisan nommé Peter Pounding qui a gagné le prix du gouverneur général au Canada. De 50 ans de ses œuvres. On vient d'ouvrir une exposition, les œuvres d'art canadiens, de l'Atlantique, international, mais on devient prêt à monter une exposition d'un artiste qui est le chef, il travaille pour le département des arts visuels à l'Université de Moncton, nommé Guillaume Lepine. Alors, ça va être ici une bonne installation. On a peinturé tous les murs jaunes comme une banane. C'est vraiment comme bouleversé avec les couleurs. Des expositions des artistes autochtones du Nouveau-Brunswick des années 60, de l'Université Mount Allison, des artistes là. Mais il y a tant de choses. Oh, une autre très importante est une exposition nommée Archive. C'est des œuvres d'art des archives provinciales du Nouveau-Brunswick avec des choses qui sont des 300 ans passés jusqu'à comme des années 90 de récentes aussi, mais des objets visuels qui montrent l'histoire de notre province. On a des choses pour tout le monde ici.
C'est combien de pièces qui sont exposées?
Mais dans notre collection permanente, on a à peu près comme 6000 pièces. Et comme le rule of thumb, le règlement, c'est normalement, il y a comme peut-être 5% de notre collection qui est en exposition. Alors ça, c'est comme 300 pièces.
Est-ce qu'il y a de grands projets pour la galerie?
L'année qui vient, on a beaucoup d'expositions des artistes canadiens, des choses vraiment intéressantes, des artistes francophones du Nouveau-Brunswick aussi, mais une photographe nommée Edward Bertinsky, qui est un des photographes les plus importants dans le monde, c'est un Canadien, il nous a donné un énorme cadeau, un don de 35 de ses œuvres. Ils sont immenses, des photos sont dans les grands musées du monde. On a une rétrospective de Mario Doucette, l'artiste acadien. On a vraiment tant de choses. La sculpture, les œuvres d'art, aussi notre collection permanente qu'on va comme continuer de monter, de changer aussi.
Ici Sébastien Caron pour IJL à Fredericton.
Bonjour, ici Sébastien Beltran à Halifax. Vous écoutez Point de vue, suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI et écoutez nos reportages sur canada-info.ca.
Une bière pour sensibiliser la population aux enjeux de l'eau potable, mais oui, c'est possible. La microbrasserie Novum Boreas du village de Saint-Quentin au Nouveau-Brunswick vient de lancer une nouvelle cuvée de bière, la Five Fingers, les cinq doigts, baptisée ainsi pour faire honneur à la rivière qui traverse la région, mais surtout pour sensibiliser les citoyens à la préservation de l'eau potable, précisément celle qui se trouve dans la rivière des cinq doigts tout près. C'est dans ce cours d'eau d'ailleurs que la municipalité de Saint-Quentin puise son eau potable. Une cinquantaine de personnes se sont déplacées donc pour goûter au plus récent nectar de la microbrasserie de Saint-Quentin, dont Nicole Summers, la mairesse de la ville. Les microbrasseurs ont même sur l'étiquette de cette bière ressuscité le capitaine Planète. Monsieur Planète était un personnage de bande dessinée des années 90. Il sensibilisait les jeunes aux enjeux de la pollution. Notre reporter Maxime Gauthier s'est sacrifié pour nous. Premier entretien avec Yannick Dubé.
Gilles Coussette, qui travaille à la ville, il est venu un après-midi à la microbrasserie, puis là, il m'a proposé ça. Il dit, hey Yann, ça serait pas pire qu'on brasserait une bière collaborative avec la ville, puis avec l'eau de la ville de Saint-Quentin. Fait que là, j'ai dit, ben oui, c'est une très bonne idée. J'ai dit, c'est sûr, faut qu'on fasse ça.
C'est donc le directeur du comité consultatif du bassin versant du ruisseau Five Fingers, M. Gilles Croussette, qui a initialement eu l'idée de ce projet.
Notre objectif dans le comité, c'est vraiment de protéger notre bassin versant, qui est notre source d'eau potable des citoyens de la ville de Saint-Quentin. Donc, c'est le Five Fingers. Toute l'eau se ramasse à la galerie d'infiltration. C'est de l'eau de rivière là, que le monde boit. Surtout, on la traite un peu, mais quand même, on a quand même une eau d'une bonne qualité ici. Là. C'est vrai que le comité, c'est ça. Notre mandat, c'est vraiment de protéger, de sensibiliser les gens à la cause, puis d'être conscient de où est-ce qu'elle vient, l'eau potable. Parce qu'il y a plein de monde, je suis sûr, qui n'ont aucune idée que l'eau vient d'une rivière. Ça fait qu'une des choses qu'on fait, on travaille beaucoup avec les agriculteurs, on travaille beaucoup avec les propriétaires de l'eau boisée pour s'assurer que les normes des milieux humides puis des cours d'eau sont respectées. Puis c'est ça. Donc, un de nos mandats, c'est de faire la sensibilisation. C'est de là qu'est venue l'idée de faire la bière Five Fingers. On s'est dit que ce serait une bonne idée, vu qu'on a une microbrasserie maintenant qui utilise l'eau du Five Fingers.
Le comité consultatif du bassin versant du ruisseau Five Fingers a été formé il y a 20 ans. Les membres proviennent des ministères de l'Environnement, de la Santé et de l'Agriculture, de la municipalité de Saint-Quentin ainsi que des gens de la communauté. Si maintenant la rivière Five Fingers est en bon état, c'est en partie grâce aux actions entreprises par ce comité. On écoute à nouveau M. Gilles Croussette.
Le comité a débuté en 2003, puis il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en 2003 là, depuis ces années-là. Là, parce qu'au début, là, ils sortaient des carcasses d'auto de la rivière. Il y avait des trails de quatre roues qui passaient. Fait que là, on a construit des ponts pour passer par-dessus la rivière. On a nettoyé vraiment les déchets, ces choses-là. Ça fait qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait. C'était-tu pollué? Bien, c'est sûr que c'était plus pollué que ça l'est présentement, mais ça restait quand même une rivière, quand même assez. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait depuis 2003, puis On est rendu à un niveau qu'on est comme pas mal satisfait avec où est-ce qu'on est rendu. Maintenant, il nous reste une couple de petits défis qui nous restent encore là au niveau de l'agriculture. On travaille présentement avec les agriculteurs là-dessus, puis tout le monde est vraiment coopératif. Ça fait que ça va dans la bonne direction.
Cette nouvelle bière, la Five Fingers, se démarquerait par la pureté de l'eau avec laquelle elle est conçue. On revient avec les propos de M. Yannick Dubé.
La Pilsner, de base, elle est brassée avec un eau, avec aucun ajout, pas de sel, rien. Fait que c'est la même chose qu'on a faite avec la Five Fingers. On a mis aucun additif dans l'eau, à part enlever le chlore. Fait que c'est vraiment l'eau pure de Saint-Quentin. Puis normalement, dans nos bières, ben on va ajouter des sels pour jouer un peu avec le profil d'eau, mais celle-là, non.
Je la trouve exceptionnelle parce qu'elle est faite avec l'eau de la ville de Saint-Quentin. Donc, notre eau potable, ça veut dire qu'on peut faire plus que la boire. On peut la transformer.
Je la trouve très bonne. Je trouve qu'elle a un petit goût de citron, un petit arrière-goût d'agrumes.
Et un mot, c'est excellent.
Je la trouve délicieuse.
Moi, je la trouve très douce. C'est une bière qui est douce. C'est une bière qui va être plaisante. Là. À peu près, c'est une bière qui est abordable par à peu près tout le monde. T'sais, elle n'est pas surprenante. Des fois, comme une grosse IPA de boule, ça va être bien. Mais c'est accessible. Et moi, je la trouve super bonne. J'aimerais avoir un petit peu plus de carbonation, mais là, je pense que c'est juste le fait de plusieurs sorties de suite. Là. Mais à part de ça, là, moi, je la trouve super bonne.
Maxime Gauthier, journaliste IGL.
La Five Fingers intègre aussi des feuilles de bleuets séchées provenant de la rivière Upsalquitch. Vous excuserez ma prononciation. Ces feuilles sont d'ailleurs reconnues pour être de puissants antioxydants. Voyageons dans la province voisine de la Nouvelle-Écosse où la Fédération des femmes acadiennes vient de lancer une série de 10 capsules traitant de l'entrepreneuriat au féminin. Les capsules ont été réalisées avec le concours de la No Wave E-Commerce Agency et le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, l'objectif étant d'offrir aux futurs entrepreneurs les outils susceptibles de les accompagner en affaires. Adèle Gros-Perrin en parle avec Claire Gabriot, coordonnatrice de projet à la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse.
Pour former les jeunes femmes à l'entrepreneuriat, on a collaboré avec le Conseil de développement économique et avec No Wave Agency. C'est des partenaires vraiment qui ont fourni des ressources aux jeunes femmes puis qui les ont accompagnées sur ce projet. Et en fait, à la fin, tout ce travail de réflexion que les jeunes femmes ont fait, on s'est dit que c'était un petit peu dommage que ça se perde et puis qu'il n'y a pas d'autres personnes qui puissent en profiter. Et on s'est dit qu'on allait développer ces capsules donc qui se basent notamment sur le Business Model Canvas, qui est un petit peu comme un format du plan d'affaires. Donc, c'est vraiment un outil de démarrage d'entreprise. Et pour vraiment mettre en forme toutes ces réflexions qu'on a eues, je me suis appuyée sur les échanges que j'avais déjà avec le Conseil de développement, puis avec No Wave Agency. Le but du projet, c'est de sensibiliser à la prospérité économique des femmes et puis aussi qu'elles aient les ressources pour se lancer en entrepreneuriat. Parce qu'il y a quand même moins de femmes qui sont entrepreneurs que d'hommes. Et en développant ces capsules, on s'est dit que c'était une manière de mettre à la disposition de la communauté, en particulier des jeunes femmes et plus généralement des femmes, les ressources que les jeunes femmes ont développées pendant tout ce projet, pendant 2 ans à peu près. Et on les a fait au format électronique, donc c'est vraiment un document que les personnes peuvent lire à leur rythme. On a mis un exemple, celui de l'entreprise que les jeunes femmes ont créée. Elles ont vendu des agendas scolaires, donc on s'appuie sur un exemple assez concret. Comme ça permet de se projeter plus facilement quand on essaie de lancer sa propre entreprise.
Pourquoi les femmes sont moins présentes dans le milieu de l'entrepreneuriat?
L'entrepreneuriat, c'est aussi, il y a un aspect de risque. Il faut pas avoir trop peur du risque, il faut être prêt à essayer des choses, faut aussi aller chercher des financements, essayer de gagner la confiance des banques, etc., pour trouver du capital. Donc, je pense que c'est des domaines où les femmes, dans le passé, bien sûr, Elle ne pouvait pas forcément créer, elle ne pouvait pas avoir de compte en banque. Alors, créer une entreprise, c'était encore autre chose il y a vraiment longtemps. Puis, je pense qu'avec le temps, c'est tout ça, prendre du risque, ce n'est pas une caractéristique qu'on associe aux femmes en premier. Puis, c'est un stéréotype de genre. Je veux dire, les femmes sont autant capables de prendre des risques. Mais c'est juste, je pense que l'histoire fait que une femme se lance peut-être moins facilement en entrepreneuriat qu'un homme. Puis c'est important qu'on lutte contre ça, puis qu'on donne les outils aux femmes pour se lancer en entrepreneuriat, qu'elles puissent s'épanouir. Là, on termine un petit peu ce projet d'entreprise sociale des jeunes femmes parce qu'elles versent une partie de leurs revenus, en fait, des profits qu'elles ont fait avec la vente d'agenda. Il y a une partie qui va aller à l'association des maisons de transition de la Nouvelle-Écosse. Donc là, on est en train de finaliser cette partie-là, puis on aura bientôt la bonne nouvelle qui va être partagée dans les réseaux sociaux. Donc ça va être vraiment la finalisation de notre projet d'entrepreneuriat, et sinon pour le futur, on n'a pas encore de nouveaux projets pour le moment.
Merci à Claire Gabriel pour cette entrevue. C'était Adèle pour IJL Halifax. Suivez-nous sur Twitter à CanadaLJI, @CanadaLJI.
On a passé pas mal de temps dans l'Est et dans le centre du pays. Dirigeons-nous vers l'Alberta, effectuer un arrêt à Rivière-la-Paix, où l'on jette les bases, on est en train en tout cas de jeter les bases, du programme d'immigration permanente, la Rural Renewal Stream. Ce programme conçu par le gouvernement albertain tente d'attirer des immigrants en région et essentiellement dans les communautés de moins de 100 000 habitants. L'Alberta qui promet à l'immigrant reçu des incitatifs qui font réfléchir, notamment le statut de résidence permanente dès son arrivée et un boulot à la clé. Justine Dubrulle est à Rivière-de-la-Paix. Elle nous parle des avantages de cette initiative et de la pénurie de main-d'œuvre dont souffre la région.
Le département d'immigration de la province de l'Alberta vient de lancer un programme pour encourager les immigrants à s'installer dans les régions rurales. Ce programme est axé sur le développement économique des communautés. Il est appelé le Rural Renewal Stream et concerne les communautés de moins de 100 000 habitants. Ainsi, la ville d'Edmonton et de Calgary en sont exclues. Pour être admissible et recevoir une désignation communautaire, il faut que la région en question ait une association de développement économique et que les entreprises aient besoin de la main-d'œuvre. Dans notre région, le Conseil de développement économique de l'Alberta, le CDEA, est en charge de remplir la demande de désignation et de guider le développement du projet dans la région. Écoutons Diane Chiasson, spécialiste du développement rural dans le nord de l'Alberta.
Dans les 10 dernières années, la région a perdu beaucoup de population. On n'a pas perdu tant d'entreprises que ça. Ça fait que les entreprises ont le même besoin que 10 ans passés, peut-être même plus. Notre population descend à tous les années. C'est vraiment un bon programme pour aider les petites municipalités.
L'exode rural est un problème qui persiste. La région pourrait véritablement bénéficier de cette initiative gouvernementale. Sans même avoir eu le temps de leur présenter le programme, 4 entreprises ont approché Chiasson pour exprimer leurs besoins de main-d'œuvre. Parmi celles qui pourraient bénéficier de ce programme, il y a le Manoir du Lac à McLennan. Écoutons Ray Johnson, directeur de l'établissement, nous parler du manque de personnel qualifié.
Currently, we have about a 20% staff turnover a year in these seniors' health facilities, and so that can be quite challenging to find the staff you need, especially the professional staff are very difficult to find right now for everybody in the rural nursing environment.
Comme le dit Johnson, dans le secteur de la santé, le taux de renouvellement d'employés est à 20%, un chiffre élevé. Selon lui, ce n'est pas facile d'attirer des gens de l'extérieur dans nos petites communautés. En ce moment, plusieurs postes sont à pourvoir au manoir. Johnson cherche des employés dans presque tous les départements de l'établissement. Johnson est déçu de ne pas avoir pu faire partie de l'initiative d'immigration ukrainienne de la ville d'Edmonton. Cependant, il garde espoir grâce à l'initiative Rural Renewal Stream. Écoutons Chiasson nous parler des services qui seront offerts aux immigrants à leur arrivée.
FCSS y offre tout un éventail de services. Ensuite de ça, on a Adult Learning qui offre des cours d'anglais. C'est là si ces immigrants-là parlent plus ou moins anglais. Puis ensuite de ça, les entrepreneurs qui vont profiter de ce programme-là vont faire partie d'un comité pour faire sûr que nos immigrants qui arrivent dans la région peuvent s'intégrer à notre communauté, OK, qu'il n'y a pas de barrière. Je donne ça comme exemple, on avait le Festival du miel. Bien, s'il y a eu une jeune famille qui est arrivée et qui ne s'est pas trop au courant, il faut faire sûr qu'ils savent. Il faut faire sûr que s'il y a une épluchette de blénaine que la CFA organise, qu'ils savent. Le carnaval, n'importe quelle petite activité qu'il y a dans la région, les faire sûr qu'ils savent. Ça fait que moi, je vais être le lien entre les entrepreneurs qui utilisent le système, puis coordonner ce sous-comité-là qui va être formé d'un représentant de FCSS, un représentant d'Adult Learning, Heart River Housing, pour supporter puis faire sûr que ces immigrants-là ont tout ce qu'ils ont besoin.
Dans nos petites communautés éloignées, c'est un défi. Mais Chiasson est prête à s'assurer que les nouveaux arrivés soient bien accueillis.
On a nos 5 municipalités, la ville de Falaise, McLennan, Donnelly, Girouville, puis le MD de Smoky River, ont tout accepté de faire partie de ce programme-là, puis partenaires. Après ça, on a besoin de démontrer qu'on a le système scolaire, qu'on a le système de santé, qu'on a des logements pour eux autres, un système de transport.
Du côté de la francophonie, Chiasson croit qu'en ayant une désignation, la région pourrait plus facilement attirer des immigrants de langue française.
Avec le conseil scolaire francophone, qui vont faire partie des entreprises qui vont afficher les positions qu'ils ont à offrir, ça fait qu'il y a des chances, la CFA, la radio.
Ceux et celles qui s'installent en milieu rural grâce à ce programme suivront le processus habituel d'immigration au pays, mais ne devront pas attendre 2 ans avant d'appliquer pour leur statut de résidence permanente. Tout comme Ray Johnson, Diane Chiasson a espoir que la région soit admise et reçoive une désignation communautaire.
On se croise les doigts, mais je suis bien confiante qu'on va avoir la désignation.
C'était un reportage de Justine Dubrulle. Voilà qui complète cette autre édition de Point de vue produite par le Fonds canadien de la radio communautaire. On remercie l'équipe cette semaine, Adèle Gros-Perrin, Sébastien Caron, Marie Hillès, Maxime Gauthier et Justine Dubrulle. Boris Chassagne, ici à l'animation et à la réalisation. Coordonnateur national, Stéphane Bénard. Vous savez qu'on a beaucoup plus à vous raconter sur le site de canada-info.ca, canada-info.ca. Une manne de reportages produits aux quatre coins du pays vous y attendent. Retrouvez-nous aussi sur Twitter, @CanadaLJI. Canada LJI pour suivre le fil des nouveautés. Restez à l'écoute de l'émission qui suit. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête-à-la-Baleine en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.